Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite, on part à la rencontre de nos très lointains ancêtres sur RTL. Bon, préparez-vous, c'était il y a 13 millions d'années.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL.
Il y a 25 millions d'années, des espèces jusque-là inconnues apparaissent sur Terre. Des grands singes hominoïdes.
La curiosité est un vilain défaut.
D'évolution en évolution, ils donnent naissance à de nouvelles espèces plus complexes. Ils s'aventurent peu à peu sur le sol et inventent la chasse, l'outil, le pouvoir, l'amour et bientôt la guerre.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Premier homme, c'est le titre d'un film documentaire diffusé demain soir, 21h sur M6. Et c'est le thème de notre curiosité sur RTL. Bonsoir Pascal Pic.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir,
bienvenue. Vous êtes paléo-anthropologue au Collège de France et vous assurez également la direction scientifique de ce film. On commence, on pose les bases. C'est quoi déjà un paléo-anthropologue?
Bon, c'est tout simple. Hein. Enfin, dans la dénomination, paléo-ancien, anthropos l'homme et logos sa connaissance. C'est-à-dire l'ensemble des disciplines qui s'intéressent aux origines et à l'évolution de la lignée humaine. Ce qui comprend aujourd'hui beaucoup de disciplines. Bien sûr, les fossiles, ils sont au cœur du film. La préhistoire, c'est-à-dire les outils. Et depuis quelques années, nous avons la paléogénétique hein, qui nous permet de reconstituer le patrimoine génétique de Néandertal et aussi de reconstituer bien des éléments des relations de parenté entre les grands singes et nous.
Et donc, c'est ce qui permet aussi d'avoir un film demain soir qui fait la synthèse de toutes les nouveautés, de toutes les découvertes de ces quoi, 10, 15 dernières années peut-être ?
Oui, depuis l'Odyssée de l'espèce, il y a eu beaucoup, beaucoup de découvertes, notamment un des premiers personnages qui rentre en scène, qui est donc Pirola, qui est un grand singe de Catalogne. Et oui, c'était en Espagne.
Ouais. Et, il vivait à quelle époque ?
À lui, c'est 13 millions d'années, ouais. 13, 12 millions d'années. Toumaï, qui était à peine connu, à peine annoncé au moment de l'Odyssée de l'espèce. Et puis, il y a une discipline que je n'ai pas citée, parce qu'elle est au cœur de tout ce film, dans la reconstitution de leur vie, qui est l'éthologie, l'étude du comportement. On a des avancées absolument considérables sur les mœurs et les vies en société des singes et des grands singes. Et c'est ça que nous avons introduit dans ce film.
Bon, Pascal Pic, on a très envie de faire connaissance avec le fameux Pirola, qui naît il y a 13 millions d'années en Catalogne. Comment il se déplace ?
Alors, à partir de cette époque-là, on a un petit réchauffement climatique qui fait que les ancêtres hominoïdes, on l'a entendu dans la petite bande de présentation, il y a un petit réchauffement climatique qui fait que les forêts vont s'étendre sur la partie méridionale de l'Eurasie. Et là, les grands singes qui ont une devise, si je me permets, jamais sans mon arbre, bah, ils vont suivre et ils vont se déployer, bien sûr, parce que lorsque vous avez de grandes niches écologiques comme ça qui s'étendent, c'est très propice à la dispersion et à la diversification. Et nos collègues espagnols, depuis une quinzaine d'années, font des découvertes extraordinaires, mais à tous les niveaux, hein, chez Néandertal. Mais là, c'est pour les grands singes de cette époque-là. Et là, certains commencent à acquérir de plus grandes tailles. Et quand on a une plus grande taille, se déplacer dans les arbres, c'est pas très facile pour courir sur les branches. Alors, ils vont commencer à se redresser. Les pieds sur une branche, et puis ils deviennent orthograde. Ortho, ça veut dire perpendiculaire, donc orthograde. Mmh. Et ils marchent, bipédés assistés, les pieds sur une grosse branche, et ils cèdent de leurs mains pour s'accrocher. Et lorsqu'ils viendront au sol un peu plus tard, ils auront l'habitude, depuis déjà très longtemps, de se tenir verticalement, et ce sont les portes ouvertes aux bipédies.
Mais attendez, vous êtes en train de nous dire, Pascal Pic, que la première fois que l'homme, on va dire ça, ou que nos très lointains ancêtres, voilà, les grands singes ont marché debout, c'était dans les arbres, en fait.
Oui, mais c'est une bipédie assistée. Attendez, ce ne sont pas des joggers non plus.
Ils tiennent quand même avec les.
Mais ils tiennent quand même. Et puis, l'habitude de se tenir verticalement suspendu aux branches, je vous donne un bon exemple. Nous sommes après le dîner, enfin, peut-être pas vous, mais.
Si, on a mangé à la cantine.
Bien. Vous êtes très content certainement d'avoir un gros intestin qui n'écrase pas le petit intestin, parce que c'est un héritage de cette époque-là, de l'époque de Pirola.
Ah oui.
Le gros intestin s'attache en fait derrière la paroi abdominale. Voilà, il est accroché par des tissus et il fait le tour par haut et il redescend. Et ça n'existe pas chez les autres singes. Et ça, c'est un héritage que nous avons nous aujourd'hui encore de ce mode de suspension dans les arbres.
Qu'est-ce qu'on peut encore apprendre, Pascal Pic, de ce Pirola, de ce grand singe ? Par exemple, quelle est sa vie sociale ? Comment s'organise la vie sociale chez le Pirola ?
Alors, sur les fossiles, on peut raconter des choses. Par exemple, la différence de taille entre les mâles et les femelles. Pardon pour le terme technique, on appelle ça dimorphisme sexuel. C'est facile à comprendre, des différences de taille et de forme entre les deux sexes. Eh bien, quand les espèces ont tendance à être monogames, les mâles et les femelles ont la même taille corporelle et les canines sont de la même taille. Par contre, si vous avez des gros machos, Ça, c'est pour vous, c'est Denis.
Ouais. On en connaît des grands chats. Hein.
Oui, bah, vous allez repérer.
Je leur file des coups de pattes.
La taille corporelle est deux fois plus grande que celle des femelles et des canines absolument exubérantes. Bah, un petit peu comme chez les cerfs. Les cerfs, les mâles, sont deux fois plus grands que les femelles. Ils ont des bois. Mais chez les singes, ce ne sont pas les bois, ce sont les canines.
Alors, et donc, chez les pyrolas, du coup.
On trouve sur les fossiles. Alors, chez pyrolas, qu'a-t-on fait? Alors, il y a deux façons de faire. C'est lorsqu'on connaît les relations entre ce type de taille corporelle et de canine qu'on peut transposer, c'est ce qu'on appelle le principe d'actualisme. Ce qu'on observe et qui est bien établi dans la nature actuelle, si on l'a dans la nature passée, on le met là. Voilà, c'est une méthode toute simple. Et puis autre chose, il y a une chose qui a beaucoup surpris, c'est le rire chez Pierola. Pierola rit. Alors on s'est dit, ouais, mais attendez, sur les fossiles, vous ne les voyez pas se marrer, quoi. Même s'ils ont de grandes canines. Et là, c'est tout bête parce que nous avons une machine à remonter le temps. Notre devise à nous, c'est tels enfants, tels parents. Donc, si tous les descendants d'une espèce particulière présentent le même caractère, on considère que ça vient de l'ancêtre commun.
D'accord.
Des frères, des sœurs, des cousins qui se ressemblent, c'est ou les parents ou les grands-parents.
Vous parlez de nous, là ? Nous, comme on se marre, ça veut dire que notre ancêtre se marrait
aussi ? Oui, il serait bien amusé ici à nous écouter, certainement. non, mais très sérieusement, si les orang-outans rient, les orang-outans, donc, ils sont séparés de notre lignée vers 13 millions d'années. Oui. C'est l'époque de Pierola. Donc, si les descendants de cette époque-là, qui sont les orang-outans, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, les hommes, eh bien, riaient, ils rient tous, on le sait aujourd'hui, nous considérons que le rire vient de cette époque-là. Donc, c'est pour cette raison qu'on a pu introduire, aux différentes grandes étapes de ce documentaire, les connaissances actuelles, à la fois des fossiles, bien sûr, qui permettent d'ancrer dans le temps ces choix dans les grandes étapes de l'évolution de la lignée humaine, et également de le nourrir des découvertes actuelles qui sont aujourd'hui disponibles sur les singes et les grands singes.
Alors Pascal Pic, ce pyrola qu'on découvre grâce à vous, j'avoue, Sidonie, on était tous les deux, tiens, mais on ne le connaissait pas.
Je ne dirais pas que ça vient de sortir, mais il n'est pas très connu non
plus. Voilà, c'est ça. Donc, on est très heureux de l'avoir rencontré, on l'adore. Mais il va devoir faire face à une nouvelle menace, un grand refroidissement climatique qui va l'obliger à migrer vers le sud. On vous raconte cet exode tout de suite sur RTL.
La curiosité, c'est jusqu'à 22h sur RTL. Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Dans l'œil de notre curiosité, l'histoire de nos ancêtres, les premiers hommes et les premières femmes. On vous raconte cette histoire avec le paléo-anthropologue Pascal Pic. Et votre récit nous ramène il y a très très longtemps à la rencontre d'un grand singe. Il s'appelle le Pierola. Il vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Espagne il y a 13 millions d'années. On a appris avec vous que c'était sans doute notre ancêtre parce qu'il riait comme nous. Ouais. Donc sans doute qu'il était entouré de gens très drôles aussi, hein, j'imagine.
Bon, il avait une Sidonie Bonnec à côté de lui, Pierola, c'est sûr.
Il n'avait pas le choix. Et puis vous nous apprenez aussi quelque chose autour du sommeil. Ouais. Qu'est-ce qu'il a inventé, ce Pierola, qu'on poursuit, nous, aujourd'hui?
Eh bien, les grands singes, chaque soir, fabriquent un nid extrêmement douillet, en haut dans la canopée, ce qui leur permet de se protéger des prédateurs. Et pour bien dormir, il faut être protégé. Et dormir, c'est essentiel pour avoir un cerveau plus gros. Et le rôle du sommeil, c'est de faire le tri dans toutes les informations qu'on a ou sollicitations qu'on a eues dans la journée et garder celles qui sont les plus importantes. Et si vous n'avez pas de sécurité, c'est très difficile de bien dormir. Les chevaux, comme vous le savez, et les proies ne dorment pas plus de 30 secondes ou une minute d'affilée parce qu'ils sont toujours comme cela. Alors les lions, eux, dorment très bien. Personne n'ira les déranger dans leur sommeil, on est bien d'accord. Mais pour les grands singes, on sait d'après des études récentes, qui sont très récentes, que les singes comme les macaques, les babouins, dorment plus que nous. On est sous la bande des tropiques. Hein, sous la bande des tropiques, autour de l'équateur, la nuit et le jour ont à peu près la même longueur tout au long de l'année. Mais Ils ne font pas de nid, donc ils ont un sommeil un peu plus long, mais de moins bonne qualité. Nous avons inventé, donc, dans ces lits douillets, confortables, un sommeil en sécurité, avec les mamans et les petits. Et à partir de là, donc, ça a été un facteur essentiel du développement de l'intelligence.
Alors, je disais tout à l'heure que ce grand singe, notre lointain ancêtre, a dû faire face à un phénomène climatique, un refroidissement climatique, qui est déclenché par quoi ? Pascal Pic.
Eh bien, vers 7 millions d'années, l'Afrique bascule, selon nos conventions, dans le sens des aiguilles d'une montre, et le détroit de Gibraltar est fermé. Or, la Méditerranée est une mer déficitaire.
Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que les pluies, les fleuves et les rivières n'apportent pas assez d'eau par rapport à l'évaporation. Donc, c'est l'océan Atlantique qui fournit la différence. Donc, il y a un grand courant puissant aujourd'hui, parce que ça s'est rouvert, bien sûr, qui va de l'Atlantique à la Méditerranée. Ça va se fermer, la Méditerranée va s'assécher, et par conséquent, toutes ces forêts tropicales et tempérées chaudes qui allaient de l'Espagne, qui traversaient la France et qui allaient jusqu'en Allemagne, vont se fragmenter et disparaître. À partir de là, tous ces grands singes, parce qu'il n'y avait pas que Pirola, bien certains vont disparaître, d'autres vont migrer vers l'Est, donc peut-être les ancêtres des gibbons, c'est pas certain cette affaire-là, et il est tout à fait possible qu'un groupe ait pu migrer depuis le sud de l'Espagne vers le Maroc.
Pascal Pic, je rappelle que vous êtes le directeur scientifique du film Premier Homme, réalisé par Frédéric Fougat et Jérôme Guyot, diffusé demain soir sur M6. On y raconte comment le Pirola va s'installer dans un nouvel environnement.
Pirola et ses cousins traversent la Méditerranée asséchée. Ils migrent vers l'Afrique, où la forêt se déploie, notamment sur l'immense plaine verte du Sahara. Pirola évolue et devient une nouvelle espèce, douée de nouvelles facultés tout à fait stupéfiantes. Désormais, notre ancêtre s'appelle Toumaï.
Toumaï, c'est le nom que l'on a donné à une nouvelle espèce qui a été découverte en 2001. Où et comment a-t-elle été trouvée, cette espèce?
C'est le grand travail de Michel Brunet, qui était professeur au Collège de France et qui est toujours professeur honoraire. Et Michel Brunet avait dans l'idée qu'il y avait certainement des choses à l'ouest des vallées du Rift. À l'époque de l'Odyssée de l'espèce, le modèle dominant, c'était celui de l'Histoire d'Yves Coppens, que les plus anciens représentants de la lignée humaine qui marchaient debout étaient apparus donc à l'est des vallées du Rift, là où sont les grands lacs et les grands fleuves, donc du côté du Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, alors qu'à l'ouest, c'était le domaine des grands singes. Et en science, on est toujours content d'avoir un bon modèle, mais on va toujours vérifier si le modèle tient. Et pour vérifier si le modèle tient, on va du mauvais côté.
Donc il y a eu des recherches menées de ce côté-là.
Oui, mais je rappelle que Yves Coppens, évidemment, avait beaucoup fouillé une époque au Tchad, et Michel Brunet n'est pas parti sans donner. Et puis c'est un travail absolument extraordinaire, parce que les conditions au Tchad sont beaucoup plus complexes qu'en Afrique de l'Est. Et Michel Brunet avait déjà trouvé en 1996, en tout cas annoncé, un Australopithèque contemporain de Lucie, qu'on prenne à Babel. Donc on sait qu'il y en avait. Et puis Toumaï est aujourd'hui le fossile qui est le plus proche de ce moment crucial de la séparation d'un côté de la lignée qui donnera les hommes via les australopithèques et de l'autre côté donc qui donnera les chimpanzés et les bonobos.
D'un mot, parce qu'on arrive à l'heure du flash, je crois qu'on a trouvé un crâne, c'est ça?
Il y a un crâne et plusieurs mandibules qui est la partie inférieure des mâchoires.
Et avec ça, on peut reconstituer sa façon de vivre.
Mon cher monsieur, nous faisons des thèses, plein de thèses. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut raconter sur une mâchoire. Vous allez voir, on va tenir longtemps.
Ouais. Ouais, ça tombe
bien sûr, c'est très précis. C'est beaucoup plus précis qu'on imagine.
On a encore énormément de temps avec vous et ça, c'est du bonheur.
On peut aussi découvrir que les Toumaï ont inventé une nouvelle façon de s'accoupler. Vous nous raconterez ça après les informations.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Toumaï habite sur les rives du lac Tchad. Il est probablement notre ancêtre commun avec les chimpanzés actuels.
La curiosité est un vilain défaut.
Avec lui, la marche vers l'humanité s'accélère.
Jusqu'à 22h,
Erectus a inventé une nouvelle société plus complexe. Les croyances, la magie, l'écriture, la médecine. Les sciences.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Qui sont les premiers hommes? C'est la question que se pose notre invité. Il en a fait son métier. Pascal Pic, paléo-anthropologue. Vous êtes également le directeur scientifique d'un film documentaire événement qui est diffusé demain soir à 21h sur M6. Film réalisé par Frédéric Fougère et Jérôme Guyot. Et puis on n'a pas encore cité les livres. Il faut les citer. Deux livres qui sont publiés chez Flammarion, tirés de ce film. Notamment un qui est à destination des enfants. Les dernières découvertes scientifiques expliquées aux enfants. Alors on parlait de Toumaï. Donc l'un de nos lointains ancêtres, Toumaï, qui a été découvert du côté du Tchad, c'est
absolument,
ça, c'est ce que vous
nous
disiez tout à l'heure, chez qui les rapports sexuels sont intéressants à analyser. Pourquoi? Il invente une nouvelle façon de s'accoupler, c'est ça?
Oui, parce qu'on a affaire à des espèces qui vivent beaucoup plus longtemps, qui marchent beaucoup mieux debout, ce qui modifie quand même l'anatomie, l'allure et les rapports à la sexualité et à l'attirance, bien évidemment. Alors, comme nous savons que chez les hommes, les chimpanzés et les bonobos, qui sont d'autres chimpanzés, il y a des préférences entre les partenaires sexuels, il y a des jeux érotiques aussi, des attouchements, etc. Nous avons, selon la méthode que j'évoquais tout à l'heure, si on retrouve ça chez les descendants, on pense que c'est chez les ancêtres. Et là, vous avez évoqué l'Arabie Saoudite et le rôle des relations entre les hommes et les femmes. Malheureusement, ça commence là, puisque chez toutes les espèces de singes, il y a une règle sociale qui fait que les femelles restent ensemble toute leur vie et les mâles s'en vont à l'adolescence pour se reproduire. Donc on verra dans le film comment ce petit Pierrot-là, il va avoir deux problèmes à régler. Les grands mâles dans la communauté d'à côté dans laquelle il doit s'installer, qui ne vont pas l'accueillir avec bonheur, et il doit en même temps séduire les femelles. Donc voilà. Et là, il y a eu un coup d'État, on ne sait pas quand, une espèce de coup d'État social, parce que ce n'est pas génétique bien sûr, qui fait que les seules espèces, et Sidonie ne va pas aimer, les seules espèces chez lesquelles les mâles restent ensemble et les femelles migrent à l'adolescence sont les hommes, les chimpanzés et les bonobos. Et à partir de là, on a des sociétés qui sont centrées sur des communautés de mâles qui vont faire de la politique, qui ont des enjeux de pouvoir et qui vont se faire aussi la guerre. Alors à partir de là, ça ne veut pas dire que c'est foutu pour les femmes ou les femelles, puisque les femelles bonobos s'en sortent très bien, les femelles chimpanzés pas trop mal. Et dans les sociétés humaines, on a une grande diversité de relations comme ça, puisque dans toutes les sociétés humaines, Claude Lévi-Strauss l'a bien décrit, au moment du mariage, ce sont les femmes qui vont dans la famille du mari.
Et donc, cette prise de pouvoir, elle impacte sur la sexualité, parce qu'on parlait notamment de Toumaï qui révolutionne peut-être la manière de faire l'amour, entre guillemets, oui, ou de se reproduire, on va y aller
oui,
doucement.
Oui, parce que la sexualité ne va pas être engagée que pour faire des petits. La sexualité va être engagée dans des relations sociales, dans des négociations ou autres. Chez les bonobos, où c'est quelque chose de très, très développé, la sexualité sert avant tout à réguler les tensions sociales ou autres. Donc la sexualité intervient de différentes manières. Donc ça peut être aussi pour spolier, mais ça peut aussi pour donner du plaisir, ça peut aussi pour réguler les relations sociales, pour lier, avoir des liens d'amitié qui peuvent être aussi homosexuels, soyons clairs. Et ça, c'est tout à fait nouveau, effectivement, et ça paraît du temps de Toumaï.
Toumaï, est-ce que c'est une espèce qui, vous dites, qui a inventé la guerre? Pourquoi on dit ça? Parce que on voit que il y a eu des querelles de territoire entre groupes, entre clans, entre...
Toutes les sociétés humaines se font la guerre, donc ça veut dire que ça date pas d'aujourd'hui malheureusement. Ouais. Et les sociétés de chimpanzés se font la guerre aussi. Et les mâles ne vont pas répondre à une provocation, ils vont monter. Il y a des femelles aussi qui participent. Hein, ils vont monter une expédition dans le seul but d'aller taper les mâles d'à côté. S'ils peuvent en attraper un ou deux, enfin un seul c'est mieux, parce que c'est plus facile, ils vont le tuer, voire. Et on a deux exemples étudiés chez les chimpanzés, où les mâles, méthodiquement, ont exterminé les autres mâles, ceux des voisins, et ont pris les femelles. C'est l'enlèvement des Sabines version chimpanzé. Ouais. Et donc c'est pour cette raison, pareil, même méthode, tout simple, mais en tout cas qui est justifiée et justifiable, que si les chimpanzés et les hommes se font la guerre, leur ancêtre commun devait avoir les mêmes caractéristiques sociales et des comportements similaires. Donc on le met à l'époque de Toumaï.
Alors on avance dans le temps, hein, on est un peu obligé, Pascal Pic, on est à quoi, 2 millions d'années à peu près en Afrique du Sud. Voici Homo naledi. Alors c'est qui Homo naledi?
Ah bah celui-là, il nous est tombé dessus, on s'y attendait pas, je peux vous dire. Parce que ça fait 50 ans, depuis 1964 exactement, que les paléanthropologues ne s'entendent pas sur qui est le premier homme. Par exemple, Yves Coppens, c'est moi-même, mais d'autres bien sûr. Ouais. On ne sont pas d'accord, c'est qui est le premier homme. Mais c'est pas personnel, c'est une discussion scientifique. Ouais. Alors, il y avait une réunion comme ça qui avait lieu en Tanzanie, là où avait été trouvé le Homo habilis. Alors Homo habilis, il fait en disant 1m10 pour faire simple, il a un cerveau de 600 cm3, à peu près la moitié d'une autre. Une mâchoire un peu solide. Il a des bras encore longs et des jambes courtes, mais il marche mieux que Lucie, par exemple. Et puis on se disait, voilà, il y a l'outil de pierre taillée à côté. C'est un homme tout à fait convenable. Et voilà que Lee Berger, notre collègue d'Afrique du Sud, arrive avec Homo naledi, les restes de 15 individus trouvés dans une grotte dont on ne connaît pas l'accès. On ne sait pas comment ils sont arrivés là. Donc ce n'est pas un charnier. C'est peut-être la première chapelle ardente. Peut-être que là, ces corps ont été mis pour être protégés des prédateurs et des charognards. En tout cas, ça reste non résolu comme question aujourd'hui. Et c'est Homo naledi, exactement l'inverse d'Homo habilis. C'est-à-dire qu'il est plus grand, il est plus longiligne. En dessous du bassin, il marche quasiment comme Homo erectus, donc les premiers hommes. Oui. Mais au-dessus du bassin, c'est une cata totale, enfin de notre point de vue, puisque en fait, c'est un corps de bonobo ou d'australopithèque qui vit dans les arbres. Et puis la mâchoire est plus gracile, le cerveau est encore plus petit.
Alors qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion?
On ne sait pas.
Ceux qui disent australopithèque et l'autre.
Et donc voilà, pour Yves Coppens, il ressemble plus à un australopithèque évolué, ce en quoi je pourrais adhérer. On l'a fait Homo parce qu'il est proche des origines de l'homme. Aujourd'hui, la question de qui sont vraiment les premiers hommes, avant les hommes avérés, qui sont les Homo erectus que l'on va aborder certainement, on ne sait pas parce qu'on parle d'évolution en mosaïque. Alors, quand vous savez, quand les scientifiques parlent d'évolution en mosaïque, ça veut dire que les différentes parties du corps n'évoluent pas de concert et que là, nous sommes confrontés à une diversité à laquelle on ne s'attendait pas. Oui. Et je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises.
Ouais, c'est génial parce que du coup, vous allez avoir encore plein de choses à venir nous.
Homo Naledi, c'est le premier qui va vraiment s'engager. Pas très loin des arbres, mais dans les savanes plus arborées, et introduire beaucoup plus de viande dans sa alimentation.
Ah bah c'est ce qu'on écoute, un extrait du film de demain.
Aucun d'entre eux ne s'est jamais aventuré aussi loin des arbres. L'envie de manger de la viande est devenue plus puissante que la peur d'affronter les dangers de la savane. Les audacieux qui ont pris cette folle décision ne se doutaient pas des conséquences incroyables que cela aurait sur l'histoire de notre lignée.
C'est quoi cette révolution en fait? Ils vont, pour découper la viande, qu'est-ce qu'ils vont inventer?
Alors, le petit pierre taillé est très ancien, hein. Ça existe déjà du côté de Lucie, des Australopithèques. On le sait depuis à peu près un an, voire un tout petit peu plus. Mais là, il y a un réchauffement climatique, enfin un petit assèchement. Steve Coppens qui a mis ça en évidence une fois de plus, et il va y avoir deux choix d'un point de vue écologique et adaptatif. Où on continue à s'engager vers des régimes alimentaires avec plus de végétaux coriaces, les Australopithèques ayant des mâchoires à faire pâlir les dentistes, ils consommaient des tubercules, des noix, etc.
Donc, il fallait les mâcher longtemps,
oui,
c'était très dur.
Ils avaient des masticateurs trois fois plus puissants que les nôtres, c'était hallucinant.
Ouais.
Donc, et de l'autre côté, ceux qui vont aller chercher plus de viande. Parce que pendant la saison sèche, la période compliquée, soit on va chercher plus de viande, parce que beaucoup d'animaux meurent pendant les saisons sèches. Près des mares, il y a plein de viande qui est là. Ou alors, on va aller chercher les parties souterraines des plantes qui, elles, dans le sous-sol, sont protégées de la dessiccation. Et ça va être deux options, ça aurait pu ne pas se faire. Et là, on voit très bien dans le film ce qu'on appelle une divergence écologique. Des groupes vont évoluer, se spécialisant de plus en plus, mais ils marchent mieux, ils ont aussi de plus gros cerveaux. C'est les descendants de Lucie qu'on appelle les paranthropes ou Australopithèques robustes, mais ils ne dédaignent pas des fruits à l'occasion ou de la viande.
Donc des carnivores.
Omnivore,
d'accord. Et ils mangent de la viande, contrairement aux autres.
Voilà. Et les autres, qui seront les premiers hommes, vont être ceux qui vont consommer de plus en plus de viande, mais pas en étant de formidables chasseurs. C'est-à-dire qu'ils vont transférer leur technique pour briser des noix, traiter les végétaux, pour exploiter des carcasses, notamment briser une noix ou briser un os ou un crâne pour avoir de la moelle et de la cervelle, c'est la même technique. Et à partir de là, comme la viande est la seule nourriture qu'on trouve sous toute latitude en toute saison, eh bien, ces premiers hommes vont, depuis l'Afrique, aller dans le sud de l'Europe et quasiment jusqu'en Chine.
Voilà, c'est un roman, c'est un thriller que vous nous racontez,
oui,
Pascal Pic. On continue de découvrir les prochains épisodes tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Dans la curiosité, on découvre nos lointains ancêtres, les premiers hommes, à l'occasion d'un documentaire sur ce thème qui est diffusé demain soir sur M6. Et notre invité, c'est Pascal Pic, directeur scientifique de ce projet. Vous êtes paléo-anthropologue et vous nous racontez comme ça ce voyage incroyable. Ça commence avec le Pierola, ce grand singe, il y a 13 millions d'années. Après, on croise Toumaï, l'Homo Naledi. Et puis, on se pose une question parce qu'on a parlé de sexualité, on a parlé de nourriture, on a parlé de sommeil. Mais le langage, à partir de quand il arrive chez ces hommes?
Alors déjà, du temps de Homo Naledi et de Homo habilis, nous avons des aires du langage qui sont très développées. Ceci peut être reconstitué par l'imagerie médicale aujourd'hui, mais avant, on faisait avec des moulages de l'intérieur de la boîte crânienne. Donc,
il y a combien de temps à peu près?
Alors ça, c'est autour de 2 millions d'années, 2,5 millions d'années.
D'accord.
Mais les chimpanzés d'aujourd'hui ont aussi, sur le côté du cerveau gauche, des aires équivalentes du langage. C'est pour ça qu'ils apprennent si bien notre langage gestuel, notamment celui des sourds et muets.
Mm-hmm.
Alors, mais c'est pas notre langage, bien sûr. Et donc, on voit bien qu'il y a différentes étapes. Alors, comment évaluer cela? Eh bien, on regarde leurs activités. Est-ce qu'on peut considérer que leurs activités, restituées par l'archéologie notamment, l'exploitation de la viande, les outils, là, ils commencent à tailler des outils plus complexes. Donc, ils sont obligés de monter des expéditions sur plusieurs dizaines de kilomètres. On a un site qui s'appelle Lokalele, qui est absolument superbe, au Kenya, où là, ils ont marché sur des dizaines de kilomètres, pendant que certains allaient chercher les bonnes matières premières, d'autres s'occupaient du casse-croûte, avec des œufs d'autruche, s'il vous plaît. Et voilà, tout ça était hyper organisé. Donc, ça veut dire qu'il faut des modes de communication sur les lieux, les temps, etc. Peut-être pas extra- extraordinairement élaborée, mais qui explique aussi ces évolutions.
Le langage, c'est pas forcément parler, c'est ça. Le langage, c'est se faire des signes, c'est se faire comprendre.
Oui, c'est ça. On a tous l'expérience quand on va à l'étranger, mais par contre, si vous voulez commencer à donner des informations plus complexes sur les lieux, les obligations, etc., ils organisent l'espace. On a une archéologie du paysage. Lorsqu'ils vont chercher une carcasse, parce qu'on sait que la viande, même rassis, c'est bon. Vous savez, c'est une petite mode d'ailleurs aujourd'hui. La viande trop fraîche, c'est pas forcément très bon à digérer. Les carcasses restent consommables pendant plusieurs jours si c'est pas en plein soleil. Et là, ils ménagent des caches à outils. Donc, il y a une structuration de l'espace qui nous permet, grâce aux sciences cognitives, d'évaluer des équivalences entre les modes de communication, les gestes. Par exemple, tailler certains outils se fait, on appelle ça les chaînes opératoires. Ces chaînes opératoires, ces successions de gestes, sont comparables à l'ensemble des articulations que l'on a pour faire une phrase. Donc, voilà comment on procède. Donc, ils ont déjà des modes de communication plus complexes. Et puis, quand on va arriver Homo erectus, alors là, évidemment, ça va être autre chose.
Alors, Homo erectus, c'est encore un peu plus près de nous, c'est ça?
Ah, c'est un homme, hein, vrai. Alors là, tout le monde est d'accord.
Bon,
avec eux.
Et c'est il y a combien de temps?
Alors ça, c'est autour de 2 millions d'années.
D'accord.
Alors, ce sont des bêtes de course absolument hallucinantes.
C'est un marathonien, quoi, c'est ça?
Ah, c'est un marathonien. Ils vont inventer la chasse à l'épuisement. Et les autres proies ne vont pas avoir l'habitude de s'habituer à cela.
Tout ça sans dopage, ils courent. Plus vite que nous aujourd'hui.
On n'imagine pas, mais ces gars-là, sur une première ligne de rugby, tiens, un remplaçant que je suggérerais pour Clermont, les pauvres, ils ne voient pas le ballon de l'autre côté. Ouais. Ils avaient des masses musculaires et squelettiques absolument ahurissantes. Alors, pour des périodes un peu plus récentes, là, c'est quasiment notre espèce, mais la version plus ancienne, ils couraient plus vite que Sainte-Bode, ces gars-là. Donc, ils avaient des parois des os absolument extraordinairement robustes, puis derrière, il fallait tout mobiliser. Donc, c'est 90 kilos, 100 kilos que de muscles, ils courent, quoi.
Et qui peut courir très longtemps.
Très longtemps. Donc c'est ça, c'est l'endurance. L'homme ne court pas vite, mais il est extraordinairement endurant. C'est ça qui fait sa force. Et puis, ils vont inventer le feu, ces Homo erectus, avec le langage. Tout ça va en même temps. Longtemps, et c'est normal, on allait chercher les plus anciennes apparitions du feu, de tel outil, de tel bipédie. C'est normal, c'est le travail de chaque discipline. Mais ce dont on s'aperçoit vers 2 millions d'années, une espèce de synthèse créatrice, comme on dit dans les théories de l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a le feu. Alors c'est vrai que la viande cuite, c'est sympa, mais c'est surtout les végétaux. Un carpaccio de viande, ça passe bien, mais carpaccio de patates crues, là, vous êtes moins preneur, j'imagine. Ça va permettre de détoxifier, d'attendrir et de rendre 16 fois plus d'énergie. Or, le cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie. Et c'est ce que j'appelle la deuxième coévolution. C'est-à-dire qu'on va continuer à évoluer naturellement, si je peux me permettre, en termes de biologie, de physiologie, mais nous allons interférer aussi avec nos espaces culturels et techniques. Et la cuisson va évidemment permettre de toxifier la nourriture et ça va permettre aux hommes de se déployer sur l'ensemble de la Terre. Ils sont les premiers, les Homo erectus, à s'affranchir du monde des arbres, à construire des abris. Bientôt, ils parlent. C'est ce qu'on voit dans le film. Ils racontent des histoires. Et ils se déplacent.
Ah oui, il y a une scène superbe où il y a
c'est
une...
Beau. C'est magnifique, ça.
La vieille dame, moi je dis ça, c'est pas le bon mot, mais du clan qui raconte...
Une espèce de chamane.
Oui, une chamane qui raconte des histoires.
Mais tout ça grâce au feu, quand même, parce qu'on parle... C'est
autour du feu, mais le feu fait partie d'un ensemble. Alors c'est vrai que lorsqu'on voit ces échanges, cette femme qui fait de la prosodie, c'est-à-dire de la poésie. On me dit, là tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait d'opéra. Franchement, vous entendez les paroles des chants d'opéra? Non. En plus, ça, c'est pas génial, les paroles. Mais c'est ça. C'est la beauté de la musique, du chant qui nous enchante. Et là, cette femme raconte des choses, et même ceux qui sont à côté de l'autre clan sont absolument séduits par cela. Donc,
on parlait
des mondes symboliques.
Oui. Voilà. On parlait de la domination masculine. Il y a quand même eu des périodes où certains clans, où les femmes ont pu prendre le pouvoir dans cette évolution dont vous parlez.
Le parti pris a été de présenter deux clans, notamment celui qui est dirigé par une femme. Il y a des populations de chasseurs-collecteurs qui sont dirigées par des femmes. C'est les Asda, notamment. Bon, malheureusement, ils sont en voie de disparition dans le monde actuel. Mais notre propos n'est pas de dire qu'il y a une période où il y avait du matriarcat à laquelle succède le patriarcat d'aujourd'hui généralisé. Non. Il y a eu des diversités extrêmement importantes, différentes formes de leadership. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a un échange sur le feu et les outils entre une femme leader et un homme leader. Et je trouve que cette scène est superbe. Et puis, il y a une scène d'amour qui est quand même magnifique.
C'est vrai.
Bon teaser. Comment Homo erectus va-t-il essaimer sur toute la planète et comment Homo sapiens va finalement le remplacer? On suit nos ancêtres à la trace dans la curiosité. À tout de suite sur RTL.
La curiosité. Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hue.
Reconstituer l'apparition des premiers humains, c'est le défi que s'est lancé M6 dans un documentaire coproduit par 5 autres pays, diffusé demain soir à 21h. Ce film signé Frédéric Fougéa et Jérôme Guyot a été réalisé sous la direction scientifique de notre invité, le paléo-anthropologue Pascal Pic. Et puis je rappelle aussi 2 livres publiés chez Flammarion, Premier Homme
pour les enfants pour les et adultes, Premier Homme pour les grands.
Voilà.
Assez changé.
Ça fait de la bonne lecture parce que c'est vraiment tout aussi passionnant que ce que vous entendez sur RTL depuis une bonne demi-heure. Alors on racontait comment le fait de manger de la viande d'abord et puis ensuite de la viande cuite avait modifié la morphologie, le cerveau de nos ancêtres.
Oui, parce que la viande et les végétaux, j'insiste, extrêmement important. Ça allège les charges masticatrices. Et puis on a des modifications assez profondes de l'ensemble de l'anatomie, notamment le cerveau devient plus gros. Et puis nous avons une transformation du larynx, là où sont nos cordes vocales, qui descend dans le pharynx. Et on repère sur les fossiles des trous par où passent les nerfs en sortant de la colonne vertébrale qui sont plus gros. Donc il y a une innervation qui est beaucoup plus active, qui est liée à la fois à l'effort de la course et de la respiration, parce qu'on l'a dit, nous sommes un animal extrêmement endurant, résistant, et toutes ces transformations vont permettre le langage articulé, qui va se développer de plus en plus, même s'il y avait des modes de communication auparavant, on l'a dit, et surtout la taille corporelle va augmenter, c'est quand même considérable, ils vont mieux dormir, ils vont créer leurs abris, mieux se protéger, puis le feu, ça ouvre le monde de la nuit, ça se protège. Puis autre chose de très important qui est liée à la symbolique, c'est l'usage des colorants. Parce que nous, les humains, nous avons des peaux très minces, certainement le cas aussi à cette époque-là. C'est un délice pour les insectes, vous imaginez bien.
Donc, pourquoi ? Parce qu'on a de moins en moins de poils.
On a autant de poils que les chimpanzés, mais ils sont beaucoup plus courts.
D'accord.
Ils sont beaucoup plus courts. On a une autre pilosité, comme la pilosité pubienne, ou les cheveux qui poussent tout le temps. On a une autre sexualité. Par exemple, une caractéristique qui arrive avec les premiers hommes, qui est racontée dans le film, bien sûr, c'est qu'on ne voit plus jamais la période de fécondation des femmes, d'ovulation. Même les femmes ne le savent pas. Et donc, il y a une forme d'érotisation du corps. Et là, il y a que dans notre espèce, enfin chez les espèces humaines, qu'on a une transformation absolument étonnante de la morphologie du corps des femmes, avec ce corps en forme de violoncelle, la poitrine développée, la pilosité pubienne, et surtout une réceptivité sexuelle constante. Et il y a des transformations aussi chez les hommes, qui ont la mue de la voix, une pilosité plus fournie, mais ça varie selon les populations, et puis un pénis très développé, ça fait plaisir à pas mal de personnes, testicules de taille moyenne, on peut pas tout avoir non plus, et là, nous avons une érotisation du corps, ce qui veut dire qu'à partir de cette époque-là, nous avons la mise en place de relations de parenté, de filiation, parce que tout le monde ne fait pas tout avec tout le monde, il y a des règles.
C'est là que la famille naît, la famille moderne.
Pas la famille moderne, mais en tout cas des obligations qui sont faites, alors les femmes sont des mères bien sûr, mais faites aux hommes. On appelle ça l'investissement parental des mâles. Et donc, tel homme doit toujours avoir obligation, pas forcément que son enfant, mais être le responsable, par exemple, de l'éducation du fils de sa sœur, ce qui existait au Moyen-Âge chez nous. Donc, il y a plein de formes de parenté, et ça passe par le langage. Par exemple, l'inceste, ça n'existe pas chez les autres espèces. Je vous ai dit qu'à chaque, quelle que soit l'espèce, il y a des deux sexes qui s'en va pour se reproduire. Donc, il n'y a pas d'inceste. Par contre, chez nous, il y a le discours, il y a des règles. Donc tout ça va rentrer dans le domaine de l'obligation, de la réglementation, ce qui veut dire qu'on peut les contourner aussi, bien évidemment. Donc on n'a pas de différence fondamentale, mais dans les degrés d'expression, dans la manière de le dire, c'est ça qui fait vraiment l'humanité.
Pascal Pic, je vous ai interrompu et du coup vous n'êtes pas allé au bout de l'histoire des colorants et de la finesse de notre peau. Pourquoi on a commencé à se maquiller, à se mettre des produits sur le corps?
Ils observent très bien, comme le font les chimpanzés d'aujourd'hui, mais eux, ils ont des grands poils. C'est-à-dire qu'ils voient des hippopotames, des éléphants se rouler dans la boue, se mettre une couverture, enfin une carapace qui va sécher. Donc ça peut être de la cendre, ça peut être de l'ocre. L'ocre arrive très tôt, vers 1 million d'années, donc c'est certainement plus ancien. Et à partir de là, il y a des couleurs, on peut faire des traits. Et la cosmétique, c'est la même étymologie, la même racine que cosmos. On change nos apparences. Nous sommes la seule espèce qui est capable de changer ses apparences par ses coiffures, ses maquillages, ses habits.
Et donc on l'a fait d'abord pour se protéger des insectes, c'est ça ?
Au départ, oui. Et puis après, il y a eu des habits, des coiffures, tout ça. Rentre dans des mondes symboliques et cosmétiques, c'est fondamental. Parce que même si on a des oiseaux avec des plumages extraordinaires ou des singes avec des toisons absolument magnifiques et colorés, ça, c'est des effets de sélection qu'on appelle la sélection sexuelle. Mais chez nous, elle est médiatisée par des rapports de transformation du corps.
Et oui, c'est le début de l'art.
Des bijoux.
De la comédie.
Mais l'art, oui, c'est ça.
De l'opéra.
C'est le début. Oui, mais pourquoi pas. Les beaux parleurs, bien parler, c'est aussi séduire, bien évidemment.
J'en abuse ce soir.
Oui, on adore ça. Vous êtes au bon endroit, hein. Vous êtes au bon endroit pour bien parler. Homo erectus, il va essaimer un peu partout sur le sur la planète en créant, vous dites dans le film, plusieurs humanités. Pourquoi ? Parce qu'il y a des différences de taille, de morphologie un peu partout, c'est ça ?
Alors, après la sortie d'Afrique d'Homo erectus, vers 1,9 million d'années, 1,8 million d'années, il va aller donc en Asie, il va aller en Europe un tout petit peu plus tard, et après ça, on ne sait pas trop comment ça se passe, parce qu'on a des fossiles, on a des outils. On doute qu'il y ait un tronc commun, mais vers les périodes plus récentes, et ça c'est la fin du film, c'est un peu l'épilogue, mais ça sera traité plus en détail plus tard, je pense.
Nous
avons sur l'Europe l'émergence des hommes de Néandertal, qu'on voit bien depuis 500 000 ans, qui vont occuper l'Europe, le nord du Proche-Orient, et aller jusqu'en Sibérie à certaines époques. Nous, les Homo sapiens, c'est 7 milliards 400 millions d'hommes et de femmes aujourd'hui qui ont en fait, malgré les apparences, une très faible diversité génétique. Oui, nous avons une faible diversité génétique. Ce qui veut dire que génétiquement, ça remonte à 100 à 200 000 ans selon les types d'études. Et nous, nos origines, les Homo sapiens, c'est l'Afrique et aussi un peu le sud du Proche-Orient. Et puis, il y a 3 ou 4 ans, nos collègues russes ont trouvé une phalange dans le sud de la Sibérie, à Denisova. Et nous savons, grâce à l'ADN qu'en a été extrait, qu'il y a une autre lignée humaine. Donc il faut imaginer qu'il y a simplement 100 000 ans, il y avait 3 espèces d'hommes qui échangeaient des techniques qui étaient différentes morphologiquement. Ça se voit assez facilement, franchement, il n'y a rien de mystérieux. Oui. Sauf les Denisova. On sait qu'ils étaient là, mais on ne les a pas. Et nos collègues chinois sont en train peut-être de nous dire qu'ils les avaient, mais qu'on ne les avait pas bien compris jusqu'à présent. Donc c'est ça, cette humanité à plusieurs visages. Tous enterraient leurs morts. On a même échangé des gènes. Vous allez me dire, mais attendez, on a appris à l'école qu'entre espèces, on n'échange pas des gènes. Eh bien, dans les zones comme le Proche-Orient, où il y a toujours eu des rencontres, il est possible d'avoir des transferts de gènes.
Donc ça veut dire quoi ? Sapiens avec Erectus, par exemple ?
Non, pas Erectus, avec Néandertal. La avec peau blanche et les cheveux blonds, Sidonie a peut-être 5 ou 6% d'ADN de Néandertal, mais ça lui va très bien. Vous 4-5%, la peau blanche vient de nos amours avec Néandertal. Et par exemple, les gènes de Denisova, enfin une partie des gènes de Denisova, codent pour les Sherpas, donc nous avons dans l'Himalaya, les Sherpas c'est une ethnie, hein, c'est pas un métier, et ça viendrait donc de leurs amours, et puis on a aussi de l'ADN de Denisova avec Néandertal. Donc voilà, on avait plusieurs espèces humaines, et c'est ça, cette humanité à plusieurs visages. Et puis vers 100 000 ans, nous, l'homme moderne, nous entamons notre expansion, et nous allons évidemment prendre toute la place.
D'où la grande importance de l'amour. Si on devait conclure un petit peu.
Bah c'est fort bien qu'on ait fait l'amour avec d'autres espèces.
Bah oui, on adore. Comme histoire.
C'est bon la paléanthropologie.
Continuons.
Merci beaucoup. Merci. Pascal Pic, premier homme, le documentaire de Frédéric Fouja et Jérôme Guyot, c'est demain soir à 20h50 sur M6. Et vous publiez chez Flammarion 2 livres qui complètent ce film, dont l'un destiné aux enfants que je vais voler pour ma fille Bonnie Rose. Voilà, elle saura d'où elle vient.
Bah oui, c'est une très très bonne lecture. Merci beaucoup, et demain donc c'est 21h sur M6.
Vous écoutez RTL.